RCF. Bonjour à toutes et à tous. Il y a comme un air de printemps. On a l'impression que ce printemps, il est presque là. Il frappe à notre porte et je dois avouer que cela fait du bien après une période hivernale un peu dense, mais qui ne s'achèvera que dans un petit mois. Et oui, je peux vous dire dans un petit mois, puisque cette année, il n'y a que 28 jours au mois de février. Nous faisons ainsi basculer rapidement, trop rapidement peut-être, dans le mois de mars, le mois du printemps, le mois de la renaissance. Et cela tombe bien puisque la semaine prochaine, nous entrons dans le carême. Un temps où certains d'entre nous vont entamer la dernière ligne droite vers la renaissance dans l'eau du baptême, un long parcours pour ces hommes et ces femmes qui un jour ont reçu la grâce de la foi et qui, tel Saint-Pierre, ont décidé de tout laisser sur le rivage pour suivre le Christ. Une renaissance qui parfois peut s'apparenter à un coming out, faisant peser le risque au moment de l'annonce de voir des amitiés, des relations professionnelles, des relations familiales se modifier. Certains s'écartent de vous, d'autres se rapprochent, d'autres encore s'interrogent et souhaitent cheminer avec vous. De nouvelles rencontres se font, de nouvelles amitiés se nouent, tout en découvrant l'Église, traversant par ses joies et ses tempêtes. Un chemin de renaissance sur lequel je nous invite à nous engager, nous les chanceux qui avons été élevés dans une tradition et une culture chrétienne. Laissons-nous toucher par cette grâce de la conversion, à l'instar du catéchumène de cette année qui va redécouvrir la joie de croire, et à nous de ne pas devenir des cathos froids ou tièdes enfermés dans leur certitude. Cet édito n'a rien d'écho, mais bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis midi entre 12h et 13h sur RCF et où que vous soyez dans le monde et peut-être même d'ailleurs dans l'espace, puisque ce sera le thème de notre émission de cette semaine où on va évoquer la question de l'espace et particulièrement de cette industrie du spatial. On en est où en France? Qui sont les acteurs? Comment on les accompagne? Comment on fait émerger de nouveaux projets? Est-ce que l'espace peut être un lieu de développement durable? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec mon invité qui est en studio avec nous. Il s'agit de François Alter. Bonjour François.
Bonjour Patrick.
Alors vous êtes conseiller du président du CNES et en charge de la stratégie et du développement, directeur adjoint de la stratégie du développement du CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales. On verra donc avec vous tout cet écosystème, cette galaxie, si je peux faire un mauvais jeu de mots, cette galaxie du spatial. Et puis en fin d'émission avec Sylvain Bataillard, nous évoquerons une jeune start-up de Gironde qui s'est donnée pour mission de créer un lanceur d'alerte qui finalement reviendra à la maison un peu comme le pigeon voyageur, et en plus avec, paraît-il, du carburant nouvelle génération qui pollue un peu moins. On verra tout ça avec lui à la fin de cette émission. On retrouvera aussi nos chroniqueurs préférés, Maxime Dupont et Pierre Collignon, pour leurs chroniques respectives, mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Gilles Vermeaud-Desroches, qui est le tout nouveau président du Global Compact, ou plutôt du BACT mondial. On parle du baromètre des ODD 2022 avec lui. Il est notre invité écho de cette semaine.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour Gilles Vermeaud-Desroches.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, de votre profession, vous êtes le vice-président citoyenneté et relations institutionnelles chez Schneider Electric, mais on vous reçoit plutôt du fait de votre nouvelle fonction de président du Pacte Mondial France. Vous succédez à André Renaudin. On va évoquer avec vous le baromètre des ODD 2022, un baromètre qui a désormais 4 ans d'existence et qui a pour vocation de faire le point au niveau des entreprises et du privé. L'attrait que l'on a ou que l'on a moins pour les 17 objectifs du développement durable et l'agenda 2030. Peut-être une première question, Gilles Vermeaud-Desroches. On sait que cet agenda 2030 a été bousculé aussi bien en positif qu'en négatif par les deux confinements de la Covid-19. Est-ce que aujourd'hui ces objectifs du développement durable, le bien et le mal, on en connaît encore les bénéfices et les maléfices?
Oh, je ne sais pas si on peut dire bénéfices ou maléfices. Ce qu'on peut dire, c'est que ces crises qui ont été vécues et dont vous venez de parler de celle du Covid, mais on peut considérer que la fragmentation du monde telle qu'on la voit aujourd'hui, avec évidemment la guerre en Ukraine près de chez nous, mais aussi pas mal de conflits et une nouvelle vision de la réalité mondiale, pousse les entreprises, qu'elles soient grandes en étant présentes dans, sur tous les continents, ou plus petites, mais en ayant des clients un peu partout, à s'interroger foncièrement sur leur avenir et à réfléchir la manière de le mettre en œuvre. Les objectifs du développement durable, au fond, c'est une grille de lecture qui est assez simple. C'est 17 ambitions qui parlent à tout le monde. On peut dire que c'est une grammaire commune. C'est vrai pour les États, les collectivités, les ONG et les entreprises pour comprendre ce qu'il faudrait faire pour s'assurer qu'en 2030, on ait une société et une planète qui va mieux, puisqu'il est question du respect de chacun, des hommes et des femmes, de l'accès à l'énergie pour chacun, de la santé, de l'accès à l'eau, de la collaboration entre toutes ces organisations, de la lutte contre le changement climatique. On voit bien qu'on a là une grammaire, c'est-à-dire ce qui est présent et indispensable pour que les uns et les autres se comprennent et parlent le même langage.
Alors le pacte mondial s'intéresse plutôt au monde de l'entreprise, au privé, comme on dit. Hein, les objectifs du développement durable, vous l'avez dit, ça s'adresse à tous. En quoi est-ce que les objectifs du développement durable, tels que le pacte mondial le porte, est une source, un levier de performance pour les entreprises ?
Alors, il me semble que c'est un levier de performance à plusieurs niveaux, et c'est pour ça que ça intéresse aujourd'hui toutes les entreprises. Le pacte mondial, c'est une logique qui a été lancée en 1999 par Kofi Annan. Au fond, on peut marquer que c'est une des premières fois où le Concert des Nations s'est dit officiellement et a structuré un texte autour de cette démarche. On a besoin de travailler main dans la main avec les entreprises et de les engager. Et depuis, plus de 15 000 entreprises au niveau mondial ont signé cet engagement. Il faut dire que c'est pas une signature comme ça qui se fait facilement, puisque tous les ans et tous les deux ans, pour les plus petites entreprises, il faut réécrire une bonne pratique, montrer que c'est pas un engagement mort, la volonté d'être dans un réseau, mais montrer qu'on progresse. Et la France est le pays où il y a le plus grand nombre d'entreprises qui ont signé, 1800. C'est dire que quand on dit 1800 entreprises, on parle évidemment des très grandes entreprises, mais on parle d'entreprises beaucoup
plus petites, de TPE, de PME,
qui considèrent que c'est important pour elles de comprendre ce que sont ces objectifs du développement durable. Important pour elles pour trois raisons. Une première raison, c'est que la plupart de nos entreprises sont dans des chaînes de valeur, partenaires les unes avec les autres, et que de fait, il est souvent question, quand on parle d'une responsabilité d'entreprise, d'engager ses fournisseurs ou parfois ses clients. Et donc, cette grammaire commune, ces ODD, et le dialogue qu'une entreprise peut avoir lorsqu'elle veut rentrer dans une logique de progrès et de responsabilité avec ses fournisseurs. Si je peux me permettre, deux autres sujets très rapidement.
Allez-y.
Le sujet de l'attractivité de l'entreprise, c'est vrai pour les petites et les grandes entreprises. On dit aujourd'hui qu'on rentre dans un monde où il y a une certaine rareté qui a changé de côté. Hier, c'était la rareté de l'emploi. Aujourd'hui, c'est plutôt la rareté des personnes qui sont disponibles sur le marché pour travailler. Et ben là aussi, être une entreprise qui montre son intérêt au bien commun, qui par ces mots-là explique un petit peu dans quel cadre on va travailler, c'est sûrement une partie de la différenciation. Et puis le troisième point, il n'y a pas d'entreprises qui réussissent aujourd'hui et qui sont sûres que c'est pour toujours. Les 17 objectifs du développement durable, c'est 17 questions que stratégiquement une entreprise peut se poser en se disant « qu'est-ce que je peux faire de cette question ?» pour faire évoluer ma stratégie, pour apporter comme le colibri ma contribution à la résolution de ces objectifs du développement durable et donc se poser les bonnes questions.
Alors la question qui émerge souvent du baromètre des ODD, c'est la question aussi de la visibilité, parce qu'en effet on parle d'une grammaire commune, mais on sait très bien et on perçoit bien aussi dans la société que les 17 ODD finalement sont assez peu connus. Vous parliez des fournisseurs. Quand une entreprise arrive avec en disant nous on a comme grille de lecture de notre stratégie les 17 objectifs du développement durable, ça parle peut-être moins aujourd'hui que si on dit je suis Bicorp ou j'ai une politique stratégique RSE. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un levier à actionner pour que la notion d'ODD, d'objectif du développement durable, de liaison entre les objectifs soit mieux connue ? Est-ce que le baromètre fait rejaillir ça ou est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui en progression ?
Ah ben, en tous les cas, le baromètre fait jaillir une trajectoire, parce qu'au fond, chaque sondage ne vaut que par sa proximité avec les sondages précédents et pour voir qu'est-ce qui évolue en face des mêmes questions. Alors, de fait, ce sondage est fait auprès des 1800 entreprises françaises qui sont adhérents au pacte mondial, c'est-à-dire qui, quelque part, font le choix, qu'elles soient petites en région, grandes, internationales, etc., de se mettre dans cette synergie pour partager des bonnes pratiques et considèrent que les enjeux de développement durable sont une boussole pour la stratégie des entreprises et un avantage pour son attractivité. Eh bien, au milieu de cela, c'est vrai que les objectifs du développement durable sont de mieux en mieux intégrés et connus. Quand on dit que 82% des entreprises, particulièrement des PME, disent que ça va les aider à se différencier, que ça va les aider à mieux montrer qu'elles comprennent les enjeux auxquels on doit tous faire face, que 74% disent que c'est un sujet important à intégrer dans l'entreprise pour la stratégie, pour la gouvernance, mais aussi dans la relation avec les fournisseurs, que 99% de ces entreprises disent connaître les ODD. Les ODD, c'est un sujet... comme je le disais, assez simple. Moi-même, chez Schneider Electric, c'est un sujet qu'on a pris en compte depuis très longtemps. Et de fait, dont je découvre que ça permet de regarder des angles morts de la stratégie sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé au regard de l'activité qu'est la nôtre. Mais finalement, en y réfléchissant, on amène de la nouveauté et de l'intérêt. Et puis deuxièmement, de fait, je crois que la grande ambition, c'est de ne plus faire de ces ODD des actes de différenciation, mais des actes de partage dans les chaînes de valeur. Quand on regarde les enjeux de développement durable, hier, la grande question, c'était comment je vais les mettre en œuvre et je serai meilleur que les autres. À partir de, j'ai envie de dire, maintenant, enfin, les années dans lesquelles on est, on sent bien que ce qui est attendu, c'est des collectifs de chaînes de valeur. Ce qui est attendu, c'est de créer des coalitions d'acteurs engagés pour tous ensemble faire une proposition plus locale, plus citoyenne, plus verte. Et donc, les ODD sont une manière de s'approprier les grands enjeux.
Alors. Pour terminer, Gilles Vermeaud-Desroches, quel est le grand enjeu pour vous en 2023 sur la question des objectifs du développement durable? S'il y avait un enjeu à relever, un défi, ce serait lequel?
Je vais répondre par quatre. Il y a deux enjeux. Le premier grand enjeu, c'est que ça y est, on a intégré ce sujet. Probablement que 2030, c'est demain matin et qu'on sait tous qu'il faudra aller plus loin sur ces sujets. Il ne faut pas utiliser les ODD comme un traducteur a posteriori de ce que fait une entreprise, mais plutôt les prendre
comme un élément de stratégie.
Au début, comme un élément de stratégie et réfléchir à partir d'eux, plutôt que dire, tiens, on fait ça, 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 on peut le mettre dans tel ou tel ODD. C'est bien plus efficace de les garder les 17 parce qu'il y a une cohérence et de partir de cela. Et puis le deuxième point, moi, je suis très impressionné par le fait que tout le monde va répondre à votre question. Évidemment, c'est la question du climat. J'écoutais votre introduction, c'est intéressant. le printemps est là et on l'attend tous. Mais malheureusement, l'hiver n'a pas été très froid. On voit bien qu'il y a une nécessité pour nous-mêmes aujourd'hui. Et quand on parle de ça, on ne parle pas seulement du climat de nos petits-enfants comme on a su le faire jadis. On parle de ce qui se passe maintenant et qu'on est tous capables de repérer. Ça fait un mois qu'il n'a pas plu en France, etc. etc. Et on sent évident que ce sujet est là. Mais je suis très intéressé de voir que pour ces entreprises-là, au même niveau, travailler sur qu'est-ce que c'est que le travail décent. Comment, lorsque c'est nécessaire, on parle de droits de l'homme, de droits humains, de lutte contre le travail forcé, etc. Et ici, de bien-être au travail. Et comment on lit travail décent et croissance économique, c'est arrivé à peu près au même niveau en cohérence avec les enjeux de bien-être et d'égalité professionnelle et d'égalité entre les sexes. Vous voyez, il me semble que, évidemment, le climat est sur la table de tout le monde. Chacun d'entre nous pour essayer de faire notre part, en considérant que certainement d'autres doivent en faire des plus grandes parts, mais si chacun y met un petit peu, ça contribuera à pousser tout le monde. Et en même temps, que la dimension sociale est importante, il n'y a pas de responsabilité qui n'avancerait que sur une jambe.
Exactement.
L'environnement et le climat. La deuxième jambe, qui est celle de l'humain, de sa protection, de sa mise en valeur, de la formation des uns et des autres. C'est un sujet où les entreprises sont aussi l'agenda des solutions. Elles le sont évidemment par les innovations. Et les ODD en poussent sur un certain nombre de sujets fondamentaux liés à l'eau, au climat, à l'énergie, etc., à l'agriculture. Mais sur les volets humains, elles sont aussi l'agenda pour chacun. Il faut laisser personne sur le chemin, que ce soit ici ou partout dans le monde.
Exactement. Et c'est toute l'intelligence de ces 17 objectifs du développement durable. C'est de ne pas se concentrer sur l'un, mais de bien démontrer que tout est lié. Merci beaucoup, Gilles Vermeaud-Desroches, président du Pacte mondial, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors il y a quelques mois, le pape François réunissait à Assise près de 1000 jeunes économistes, entrepreneurs et acteurs du changement venus de 120 pays pour le Saint-Père. Ces jeunes sont appelés à devenir artisans et bâtisseurs de la maison commune. Quelle était l'intention du pape, Pierre ?
C'est la marque de ce pape d'être toujours là où ça fait un peu mal. Dans ses journées à Assise, il a donc incité les jeunes à devenir des artisans et des bâtisseurs de la maison commune, comme vous le disiez, tout en ayant bien conscience que cette maison tombe en ruine et qu'il faut bâtir une économie respectueuse de la terre et une économie de paix.
Alors comment un mouvement comme les EDC reçoit-il un tel message ? Et est-ce que vous, Pierre, vous vous sentez concerné ?
Oui, bien sûr, nous n'allons pas regarder la paille qui est dans l'œil des autres et refuser de voir la poutre qui est dans la nôtre, n'est-ce pas ? Tous nous avons des responsabilités dans les graves difficultés de notre temps, et même si aux EDC nous sommes pétris de la pensée sociale chrétienne, nous devons nous sentir concernés et remettre en cause probablement nos modèles de développement. Le pape François nous exhorte d'ailleurs à accepter le principe éthique universel selon lequel les dommages doivent être réparés, et pour cela il nous faut apprendre à faire des sacrifices dans des modes de vie qui ne sont toujours pas durables.
Alors voilà qui est bien, mais comment faire exactement, Pierre ?
C'est toujours le point le plus agaçant dans les discours des différents papes. Ils ouvrent des pistes, mais ils ne nous disent pas comment faire concrètement. Si on veut bien prendre un petit peu de recul, c'est là justement qu'est notre responsabilité. Les papes n'ont pas à nous dire ce que nous devons faire, mais ils doivent nous rappeler des principes intangibles qui peuvent stimuler notre créativité et notre liberté.
Et alors, quelles sont ces pistes données par le pape François ?
Le pape nous propose trois pistes que je vous énonce. La douceur de la nature, l'aspect social et le capital spirituel. En ce qui concerne la première piste, elle nous entraîne sur ce qu'il appelle le paradigme végétal, une métaphore qui nous incite, comme les plantes, à coopérer avec notre environnement et même, lorsque nous sommes en concurrence, à ne jamais le faire contre l'écosystème.
La piste sociale paraît peut-être plus facile, non ?
Non, car le pape établit un lien entre le cri des pauvres et celui de la terre et il nous affirme, je le cite, que lorsque nous œuvrons à la transformation écologique, nous devons garder à l'esprit les effets que certains choix environnementaux ont sur la pauvreté, et il nous invite à privilégier ceux qui réduisent la misère et les inégalités. Et c'est pas si simple, comme on peut l'imaginer, d'intégrer cette nouvelle donne dans une équation qui, par ailleurs, est déjà bien compliquée.
Alors le pape affirme également que le premier capital de toute société est le capital spirituel. Pourquoi aborde-t-il ce sujet ?
C'est parce qu'il a très bien compris, je crois, la quête spirituelle dans la jeune génération et qu'il s'inquiète de voir les jeunes souffrir de ce manque de sens et de ce précieux capital spirituel qui est invisible, mais comme il le dit, qui est plus réel que le capital financier ou technologique. Les merveilles de la technologie peuvent faire beaucoup, elles nous apprennent le quoi et le comment faire, mais elles ne disent pas le pourquoi. Et c'est alors que nos actions deviennent stériles et ne remplissent pas la vie, pas même la vie économique. C'est pourquoi, nous dit le pape François, il est urgent de reconstituer ce capital spirituel essentiel.
Merci beaucoup Pierre Collignon. Nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, après la pause, on se retrouvera avec notre invité François Alter pour évoquer le business de l'espace. Quelle dynamique pour le spatial dans nos territoires et pour nos entreprises ? Est-ce que c'est un lieu de création d'entreprise ? C'est ce qu'on verra avec notre invité du dossier de l'écho des solutions.
Before I reach the sky above, I'll stretch my hands forever young, catching the rain in the middle of a summer storm. There's a fire on 41.
C'était Whitney for a While sur RCF et on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions. On va parler du spatial aujourd'hui.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, et on ouvre le dossier de cette semaine avec mon invité François Alter, qui est conseiller du président du CNES et directeur adjoint de la stratégie. Le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales. Rebonjour François.
Rebonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va voir justement en quoi, qu'est-ce que l'économie spatiale en France, à quoi elle correspond, en quoi aujourd'hui elle est plus ou moins foisonnante qu'avant et bouillonnante. On peut même supposer qu'elle est un peu plus bouillonnante qu'elle ne l'était. Et puis on verra aussi peut-être dans nos échanges comment le spatial contribue aux objectifs du développement durable, sujet que l'on vient d'aborder avec Gilles Vermeaux-Desroches lors de la présentation du baromètre ODD 2022 du pacte mondial. Peut-être quelques mots sur le CNES. Le CNES, c'est un nom que l'on connaît, qui est dans le paysage français depuis longtemps, qui a été un peu remis sur le devant de la scène grâce à la bonne ou mauvaise, vous me direz, série OVNI qui a été diffusée sur Canal+.
Excellente série.
En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. En tout cas, on a vu que le spatial avait sa place en France depuis de très très longues années, depuis les années 70. Mais quel est le rôle exact du CNES? C'est pas juste envoyer des lanceurs dans l'espace pour mettre des satellites en orbite?
Écoutez, le CNES a fêté ses 60 ans l'année dernière. Alors 60 ans, alors comme toute bonne institution française, je dirais, a été créée par le général de Gaulle. Mmh. Pour permettre à la France effectivement d'accéder à l'espace, effectivement d'envoyer des satellites et aussi de pouvoir profiter finalement de l'utilisation de l'espace, à la fois pour des raisons scientifiques, mmh. pour des raisons je dirais gouvernementales et militaires. Il y a des éléments de défense très importants, de façon à pouvoir développer une économie liée au spatial, au niveau civil, avec des éléments qui sont extrêmement importants pour la vie quotidienne. C'est-à-dire que le spatial permet notamment de prodiguer finalement de la connectivité, donc connecter...
Nos GPS par exemple, il n'y aurait pas de spatial, aujourd'hui on ne pourrait pas utiliser les services GPS dans nos villes par exemple.
Exactement, ça c'est une deuxième fonctionnalité après la connectivité qui est le géopositionnement et la navigation, donc on utilise effectivement ces potentialités chaque jour, je pense, pour des millions de nos concitoyens. Et puis il y a aussi un aspect très important qui est l'observation de la Terre, observation qui est très très liée à nos questions de climat. On a parlé effectivement de climat, d'ODD, et maintenant les auditeurs savent ce que sont les ODD.
On leur en parle souvent. Hein,
donc,
on l'évoque souvent les ODD.
Et donc il faut se rendre compte que le spatial c'est le thermomètre de la Terre et que en fait la Terre a besoin d'espace, c'est-à-dire que dès qu'on est à quelques centaines de kilomètres de la Terre, on est capable de voir d'un coup d'œil finalement notre magnifique planète, se rendre compte de sa beauté, de sa fragilité aussi. Et le spatial a contribué très fortement à la prise en compte des questions écologiques.
Il y a un enjeu aussi géopolitique, géostratégique. Bon, évidemment, l'actualité de ces derniers jours, ça a été les ballons explorateurs venus de Chine qui survolent les États-Unis. On suppose que le CNES n'envoie pas des ballons sur la Chine ou sur les États-Unis ou sur la Russie en ce moment. Mais est-ce qu'il y a aussi un travail sur la stratégie, sur la géostratégie d'accompagnement aussi des fonctions de défense et de protection de nos territoires?
Oui, très très fortement. Alors le CNES a justement cette particularité, c'est d'être une agence spatiale au service à la fois du monde civil et aussi militaire. C'est-à-dire que les satellites de renseignement ou de télécommunications militaires sont finalement développés avec l'appui du CNES. Voilà, le ministère des Armées nous fait confiance pour faire en sorte d'avoir, je dirais, les capacités dont les armées françaises ont besoin
pour se défendre et protéger notre territoire. Le CNES n'est pas une industrie en soi, vous n'avez pas d'usine, vous ne produisez...
Le CNES, c'est une agence spatiale qui est à la fois, je dirais, une agence de financement de programmes, donc on décide avec les scientifiques, notamment pour des programmes scientifiques, de financer un certain nombre de programmes, avec les armées, aussi avec les industriels pour développer leur compétitivité. Donc, je dirais, on a une fonction d'agence, je dirais, de programme, de financement, etc.
Et comme puis, une agence de développement territorial, mais pour l'espace, en fait.
Voilà. C'est ça. Et puis, on a une fonction de centre technique où on accompagne l'ensemble de l'industrie avec des compétences très très fortes au plus haut niveau. Le CNES, c'est près de 2500 personnes, donc 90%, je dirais, d'ingénieurs au plus haut niveau. Et qui sont là, effectivement, par exemple, pour aider les scientifiques à spatialiser des missions, c'est-à-dire que des scientifiques arrivent.
Concrètement, est-ce qu'on peut donner, par exemple, quelque chose de très concret, de en quoi le CNES a accompagné une industrie dans le déploiement d'une...
Alors, en fait, je dirais que toute l'industrie spatiale a été issue au départ du CNES. Et en fait, au fur et à mesure, on a appuyé le développement de l'industrie spatiale. Et l'objectif, effectivement, du CNES, des objectifs de long terme, c'est en fait d'être, je dirais, en éclaireur et de faire en sorte que l'industrie puisse se développer le plus rapidement possible, intègre le plus possible d'innovation au travers d'actions de R&T, donc recherche et technologie, que l'on fait avec cette industrie. On soutient aussi les laboratoires, c'est très très important. On a des laboratoires d'excellence en France sur la question, à la fois sur les domaines des instruments et aussi sur les domaines d'usage, finalement, l'utilisation, et je pense notamment au climat.
On est plutôt l'industrie spatiale se porte plutôt bien en France, ou est-ce que on a encore un petit peu à actionner quelques leviers pour lui permettre d'être encore plus compétitive?
Alors, historiquement, le CNES le CNES en fait a beaucoup poussé pour le développement du spatial commercial, et c'est une spécificité européenne, hein, globalement, puisque dans la plupart des pays le spatial est tiré essentiellement par des besoins institutionnels. En Europe, on a un modèle assez différent qui est une base institutionnelle forte, donc on investit fortement, mais aussi une base commerciale très importante qui fait que, en fait, nos industriels sont confrontés à la compétitivité mondiale, la compétition, et on les soutient dans cette démarche. Et dans ce cadre-là, en fait, on a des acteurs qui sont au premier rang mondial. Juste pour vous donner une idée, nos industriels, notamment dans les industries des télécoms, par exemple, ont gagné 100% des appels d'offres qui étaient ouverts pour des satellites géostationnaires de télécom.
Et puis on a quand même été un peu les champions des lanceurs avec Ariane quand même.
Exactement, qui continue avec un carnet de commandes qui est plein, même pour son prochain lanceur Ariane 6 qui n'a pas encore décollé et qui a déjà un carnet de commandes rempli jusqu'à pour plusieurs années.
C'est ce qu'on verra peut-être d'ailleurs avec Sylvain Bataillard d'ici quelques minutes dans les 7 minutes pour changer le monde, comment on peut aussi renouveler les lanceurs, les lanceurs d'engins, les lanceurs de satellites. Le marché du spatial, ou en tout cas la création de start-up ou d'entreprises dans le domaine du spatial, on a le sentiment qu'elle s'accélère en ce moment. Vous me disiez, en préparant cette émission, quand vous étiez arrivé à vos fonctions, il y avait peut-être une ou deux entreprises qui se créaient par mois.
Par an.
Et on en est plutôt...
Voire tous les deux ans.
Et que là, on est plutôt à une ou deux par mois, c'est ça, qui apparaissent.
C'est une par semaine.
En fait, semaine.
Oui, on accompagne la création d'une entreprise par semaine. C'est absolument gigantesque. On est depuis 5 ans.
Alors, est-ce qu'on sait analyser pourquoi ça s'accélère à ce point? Est-ce que Elon Musk, par exemple, qu'avec SpaceX, finalement, a brisé des barrières de l'autocensure pour aller sur cette forme de business?
Oui, je pense que ça, effectivement, il y a tout un, je dirais, des éléments médiatiques, c'est-à-dire que les gens se disent c'est possible puisque d'autres le font. Effectivement, c'est une partie du sujet, mais il y a une autre partie qui est probablement plus importante, c'est les potentialités du spatial. C'est effectivement une industrie qui est en forte croissance, notamment dans sa dimension utilisation des données spatiales. Quand on dit qu'il y a une entreprise qui se crée dans l'économie spatiale, c'est quand même aux deux tiers des gens qui vont prendre de la donnée spatiale et l'utiliser dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, les assurances, la mobilité, etc., etc., la santé. Donc on a énormément de potentialités parce que le spatial, c'est dans ce contexte-là, c'est des données, c'est du numérique. Et
donc ce que vous voulez dire, c'est que
les grands acteurs ont tous besoin de données spatiales.
On pourrait penser finalement que le spatial, dans son industrie, c'est uniquement de la fabrication de satellites, alors que non, aujourd'hui, vraiment, le cœur même du spatial, c'est l'utilisation de la donnée, soit l'utilisation, soit la création de données pour pouvoir la réutiliser, la revendre, l'exploiter de manière assez large, c'est ça ?
Oui, alors, pour créer cette donnée, il faut quand même avoir un certain nombre de satellites et donc des lanceurs, etc. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui est tirée, mais qui est tiré par ce besoin. Voilà. Donc c'est le besoin des utilisateurs finaux qui sont nos concitoyens, qui sont les entreprises, etc., qui tirent cette demande. Et en même temps, on a des évolutions technologiques très importantes qui font que, en fait, il y a une baisse des coûts grâce à la miniaturisation notamment des satellites.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit qu'on peut fabriquer finalement un satellite dans son garage, parce que là où ça prenait peut-être l'espace du studio dans lequel on était aujourd'hui, voire même du hall d'accueil de chez Bayard, aujourd'hui un satellite grâce à miniaturisation est beaucoup plus facile à fabriquer.
Alors oui, certains satellites. Alors on continue un peu avec des gros, effectivement, des minibus. On a des minibus, on a des machines à laver et on a aussi des boîtes à chaussures. En fait, chaque typologie a un intérêt. Si on utilise effectivement un minibus, il s'agit le plus souvent donc de gros satellites qui sont mis en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre, et cette orbite est très spécifique. Elle permet d'avoir un satellite qui reste fixe,
stable et géostationnaire.
Voilà, géostationnaire. Et je dirais c'est une orbite très importante et qui continue à se développer. Et au-delà de ça, on a pour avoir de plus en plus de données avec pour le domaine des télécoms, temps de latence qui sont le plus réduit, ou dans le domaine de l'observation de la Terre pour être au plus proche de la Terre pour pouvoir prendre, je dirais, des photos avec la meilleure résolution possible, eh bien on a des constellations qui se mettent en place, c'est-à-dire non pas un satellite qu'on envoie, mais plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de satellites.
C'est ce qu'on voit de temps en temps passer l'été, la petite myriade de satellites qui fait le tour de la Terre. Je sais pas, de temps en temps, moi, au-dessus de chez moi, je les vois passer, ils sont une dizaine, et ils sont très très visibles à ce moment-là.
Oui, voilà, donc ça fait partie de ces éléments. Ces satellites en orbite basse, eh bien, on peut commencer à faire des émissions intéressantes avec des petits satellites. Bien entendu, s'ils sont tout petits, ils ont peu de puissance, ils ont peu de fonctionnalités, s'ils sont plus gros, on peut faire plus de choses. Mais ça réduit le coût unitaire et ça permet à des acteurs, notamment des startups, de démarrer, d'avoir un premier satellite avec des coûts réduits. Par contre, quand on raisonne dans un système, il faut plusieurs dizaines, centaines de satellites. Donc, ça peut être des investissements qui
Alors,
sont très importants.
Alors, comment on accompagne cet écosystème ? Parce que qui dit accompagnement dit aussi levée de fonds, dit structuration des stratégies, etc. Le CNES aussi peut accompagner ces jeunes pousses, et de quelle manière elle le fait ?
Oui, alors on a mis en place un programme qui s'appelle Connect by CNES, qui a vocation à appuyer les nouveaux entrants dans le spatial. Alors, nouveaux entrants, pour nous, c'est soit des gens qui viennent pas du tout du monde du spatial. Donc, on a des accords de coopération qu'on a mis en place avec des petites et des grandes entreprises dans différents secteurs. Par exemple, CMA-CGM, qui travaille dans le maritime, avait besoin d'utiliser des technologies spatiales, est venu vers nous. Et donc, on a un accord de coopération. Je viens de signer un accord aussi avec eux EDF sur d'autres sujets. Donc on voit que c'est des gens qui sont pas forcément dans le spatial, qui ont besoin de spatial, et donc on les accompagne là-dessus. Mmh. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement ces nouveaux entrants qui, eux, vont rentrer dans le spatial, mais n'ont pas forcément, effectivement, à la fois
la compétence, la connaissance,
les codes de développement et je dirais aussi les infrastructures qui sont très importantes pour développer du spatial, puisque pour développer un satellite.
Sylvain, qu'on va recevoir avec Hyperspace, vous les avez accompagnés, vous avez suivi un petit peu leur démarrage.
Oui, bien sûr, on les connaît très bien, et donc c'est des gens avec lesquels on a eu des actions de R&T et globalement sur l'ensemble des micro lanceurs, du segment micro lanceurs, on a un programme gouvernemental que l'on opère qui s'appelle France 2030, donc qui est un grand programme du gouvernement d'investissement de 34 milliards.
Sur le spatial.
Et donc, sur le spatial, il y a un volet d'1,5 milliard qui doit se déployer en se focalisant principalement vers ces nouveaux entrants. Mm-hmm.
Donc, ça veut dire qu'il y a encore un peu de marge. Il y a des jeunes qui nous écoutent, des jeunes ou des moins jeunes
qui veulent se lancer. C'est vraiment le moment. Hein.
C'est le moment où on peut venir frapper à la porte et proposer,
exactement.
Proposer son projet.
Avant-hier, j'étais à Cannes pour la finale du hackathon Act in Space, mm-hmm. qui est un hackathon international qu'on a mis en place depuis quelques années. Et il y avait une énergie absolument incroyable de ces jeunes.
Et c'est vraiment des jeunes qui arrivent sur le marché, l'industrie. Même.
Exactement, qui ont proposé plus de 400 projets d'entreprise au travers de challenges que nous, le CNES, on avait fixé parce qu'on leur propose d'utiliser notre propriété intellectuelle industrielle, mmh. donc nos brevets, etc., nos logiciels, pour en faire des choses. Et donc ces jeunes ont été très mobilisés. Donc c'est un
hackathon. C'est de l'open source. Vous lancez aussi un peu sur l'open source, comme l'a fait Elon Musk, alors avec d'autres projets, peut-être pas avec SpaceX, mais
on développe énormément de logiciels en open source, mais on fait pas que de l'open source. Mmh.
Il faut protéger aussi quelques brevets.
Exactement, et même on doit, je dirais, protéger notre industrie. Hein, globalement, mais on travaille beaucoup en coopération, en fait, nous, en collaboration, donc nous, le CNES, en tant qu'agence, sur ces affaires de développement de l'écosystème, on travaille en partenariat avec des acteurs qui sont spécialisés, donc par exemple des incubateurs, donc on a un réseau d'incubateurs labellisés spatial, et donc on va financer des entreprises qui sont dans ces incubateurs et qui veulent s'intéresser au spatial, et on va les accompagner aussi techniquement, ça veut dire qu'on va leur mettre à disposition des heures d'ingénieurs du CNES, des données, des infrastructures, etc. Et on travaille aussi sur l'ensemble du segment, donc l'incubation, l'accélération. On a mis en place un accélérateur franco-allemand et maintenant italien qui s'appelle Space Founders. On a déjà accompagné une vingtaine d'entreprises dans ce cadre et des entreprises qui ont vocation en fait à lever
des fonds, à émerger et devenir des licornes de l'espace.
Exactement. Et pour en matière donc d'investissement, on a tout un programme d'accompagnement qui va de ce qu'on appelle le Space Ticket, qui est, je dirais, des tout petits tickets d'investissement en amorçage. Mmh. On a contribué au montage d'un fonds qui s'appelle Cosmic Capital, qui est un fonds de venture capital, donc de capital innovation, plutôt pour des séries A, donc quelques millions d'investissements par entreprise. Et puis on a un accord de coopération avec la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement, qui ont un fonds d'1 milliard qui a été mis en place pour le spatial au niveau européen. Donc voilà, on essaye de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Alors on va parler rapidement des objectifs du développement durable. On les a évoqués un petit peu tout au fil de notre entretien, mais ils sont assez présents. Je suis allé chez vos collègues de l'Agence spatiale européenne qui ont, eux, des appels à projets très, très ciblés, ODD, où très clairement on voit en quoi tel appel à projet va répondre à tel objectif du développement durable. Donc en effet, ça peut être de la cartographie satellitaire, ça peut être en effet de la géolocalisation. Et je suppose qu'au CNES, vous avez aussi une démarche similaire.
Alors déjà, il faut rappeler une chose, c'est que l'Agence spatiale européenne, en fait, est très fortement liée à ses États membres et notamment au CNES, puisqu'on représente la France dans les conseils de l'ESA. Et donc, en fait, tous ces programmes de l'ESA sont co-construits, en fait, avec l'ensemble des États. Mmh. et le personnel de l'ESA de manière effectivement à mutualiser au mieux tous ces sujets à l'échelle européenne. Donc on est très actif au sein de l'ESA, déjà c'est un premier point. Et deuxièmement, effectivement, on a un certain nombre d'initiatives qu'on a pris, puisque la France, on est vraiment leader sur ces questions-là. Voilà, on a lors du One Planet Summit en 2017 qui avait un événement qui a été mis en place pour vérifier que les accords de Paris sont bien respectés, on a proposé la mise en place d'un ce qu'on appelait un Space Climate Observatory, un observatoire spatial du climat qui est maintenant très actif.
Oui, alors je suis allé le voir, en effet, il est très actif. Il sort des données très concrètes.
Exactement. Et donc, on a plus d'une quarantaine, je crois, maintenant de pays qui ont rejoint ce Space Climate Observatory. Et donc, l'objectif de ce SCO, c'est faire en sorte que, justement, on puisse passer d'éléments de modèles qui sont fabriqués par des scientifiques, souvent dans des labos en forte coopération, à des choses qui peuvent être à des produits finalement qui vont pouvoir être utilisés à la fois pour des décideurs, pour des politiques, pour des problématiques publiques, mais aussi bien entendu pour les entreprises.
Merci beaucoup François Alter d'avoir été notre invité. On pourrait dire encore plein de choses sur la conquête spatiale, sur l'industrie de l'espace. Bien évidemment, je voudrais aussi vous renvoyer sur la capsule de l'espace, lacapsuledelespace.com, qui est le podcast réalisé par un de nos techniciens journalistes à RCF Bordeaux, Julien Roulier. Je vous invite à aller l'écouter. Il chronique régulièrement le monde de l'espace sur RCF Bordeaux. On le retrouvera bien sûr sur rcf.fr, lacapsuledelespace.com. Finalement, il n'y a pas tellement de sujets aujourd'hui. Finalement, médiatiquement parlant, on en parle assez peu finalement de la question de l'espace, François Alter.
Je pense que on en parle beaucoup. Notamment, on a, je dirais, une icône.
Thomas Pesquet. Le problème, c'est qu'on ressent tout à Thomas Pesquet.
Voilà, non, mais c'est très utile parce que j'ai pas parlé de ça, mais le spatial, c'est aussi un moyen de faire en sorte que les jeunes s'intéressent à la science, à la technologie, ce qui est extrêmement important, notamment dans un cadre où on a de plus en plus besoin de solutions. Voilà, l'économie,
c'est les solutions. C'est le titre de cette émission.
Et les solutions, elles sont faites par l'intelligence et intelligence humaine et collective. Et on a vraiment, vraiment besoin de ces jeunes qui s'intéressent, je dirais, à ces domaines de l'ingénierie.
Et ces jeunes femmes, on le voyait avec une invitée la semaine dernière en disant finalement aussi le monde de l'ingénierie, il manque un peu de femmes qui n'osent pas peut-être aller vers ces métiers-là.
Oui, c'est vrai. Et j'étais moi très, très surpris et très content de voir justement au hackathon Act in Space, on avait près de 35% de femmes.
Super.
Ce qui est dans les domaines, je dirais, de
l'ingénierie,
deep tech, ce qui est extrêmement important. Beaucoup plus, en fait, dans le spatial qu'ailleurs. Et c'est vraiment un sujet majeur pour nous. On essaye d'avancer fortement sur ces questions-là, puisqu'on est très engagés, nous, au CNES, sur ces éléments.
Eh bien, ça fera plaisir à l'association Elle Bouge, que nous avions reçue il y a quelques semaines et qui promeut régulièrement les carrières et les parcours scientifiques pour les jeunes femmes, en les accompagnant et en leur donnant des marraines pour aller plus loin. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour la chronique Un Max d'écho.
RCF, l'écho des solutions.
C'est l'heure de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique Un Max d'écho. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors la semaine dernière, vous vous posiez la question de savoir si les Français étaient heureux dans leur logement. Et cette semaine, on parle de quoi alors ?
Eh bien, cette semaine, j'ai les chiffres sur le bonheur des Français au travail grâce à un rapport, le rapport que vient de publier l'Institut Montaigne qui a interrogé 5000 Français et qui s'appelle « Les Français au travail, dépasser les idées reçues ».
Alors, dites-nous donc de quoi qu'il en cause, de quoi qu'il en est.
Eh bien, c'est un plébiscite. 77% des salariés se déclarent satisfaits ou plutôt satisfaits au travail et 84% des travailleurs indépendants sont dans cette même situation, des chiffres très élevés et qui s'expliquent par le sens, le fameux sens du travail que trouvent près de 80% des travailleurs.
Donc pas de motif d'insatisfaction particulier.
Si, bien sûr. Ah. Le niveau de rémunération pour 46% des salariés, le manque de perspective de carrière pour 41% et le niveau de reconnaissance pour 38% des travailleurs.
Bon, mais quand même, globalement, affaire à des travailleurs heureux, mais existe-t-il des différences en fonction des critères ?
Oui, tout le monde n'est pas entièrement heureux de la même manière, mais c'est une surprise. Les critères classiques sont l'âge, le sexe, le secteur d'activité, la taille d'entreprise ou même le type de contrat ne sont pas les plus déterminants. Ce qui compte, ce sont les perspectives de carrière, la reconnaissance les relations avec son patron ou sa patronne et aussi les possibilités de télétravail.
Alors justement, le télétravail, c'est une très grosse évolution aujourd'hui, hein.
Oui, plusieurs chiffres le prouvent. D'après ce rapport, 48% des emplois sont télétravaillables, 40% des travailleurs l'utilisent occasionnellement et 33% régulièrement pour un rythme idéal, selon ces personnes, de 2 à 3 jours par semaine.
Alors revenons donc aux conditions de travail. Que nous apprend cette étude, Maxime ?
Eh bien, ils sont 24% des salariés et 18% des indépendants à déclarer trop travailler. Et ils sont 60% des travailleurs au global qui disent travailler parfois après 20h ou bien le week-end. On note, et c'est lié au télétravail, un accroissement de l'intensité ressentie au travail sans que pourtant les horaires travaillés aient augmenté. Ils sont même 31% des salariés à temps plein qui seraient prêts à travailler plus pour gagner plus.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont la bougeotte ?
Eh bien oui. Un tiers des Français souhaitent changer d'entreprise dans les 2 ans qui viennent et 29% des salariés pourraient même envisager de continuer leur activité sous un statut d'indépendant.
Et on conclut avec le rapport avec le sujet du jour qui est la retraite.
Oui, alors attention, info scoop. 7% des actifs trouvent que l'âge légal actuel de 62 ans n'est pas assez élevé. Mmh. 41% souhaitent un aménagement des conditions de travail avant le départ à la retraite et 48% trouvent que l'âge minimum de départ à la retraite actuel est trop élevé. Des Français heureux au travail donc, mais apparemment pas jusqu'à 64 ans.
Exactement. Et puis je vous invite à réécouter la très belle émission qu'on avait faite avec Christine Kiwiki pour arrêter de râler au boulot, parce que on a beau dire quand même, quand on est au boulot à la machine à café, on a tendance à râler, Maxime, non ? Vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, mais 80% des Français sont contents au bureau, donc en fait les gens aiment râler au bureau.
Ils aimeraient aller au bureau. Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
Voilà, et on est donc avec Sylvain Bataillard, l'un des cofondateurs d'Hyperspace. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Alors vous avez créé Hyperspace, une société qui est basée en Gironde. Justement, j'annonçais à la fin du dossier que nous avons un technicien journaliste girondin, Julien Roulier, qui produit chaque semaine un petit podcast qui s'appelle La Capsule de l'Espace. Et vous, vous avez décidé de créer une capsule que vous envoyez dans l'espace. C'est un petit lanceur qui s'appelle Hyperspace. Avant peut-être de commencer, Sylvain, comment on en vient en tant que jeune ingénieur à décider de se lancer dans l'industrie spatiale ? C'est un rêve de gamin suite à des films de science-fiction, ou est-ce que ça s'est propagé au fur et à mesure de vos études? Vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas l'espace?
Ah, très bonne question. Alors non, je pense que ça commence bien avant. Ça commence quand on est petit et qu'on est un petit peu attiré ou passionné par tout ce qui vole. Mmh. Donc alors, moi personnellement, j'ai commencé mes études en fait dans l'aéronautique, donc les avions. Donc ça vole, mais un peu moins bas. Et au fur et à mesure du temps, je me suis passionné pour ce qui vole de plus en plus haut. Ouais. Et donc en fait, j'ai commencé dans l'aéronautique et j'ai bifurqué ensuite dans le spatial, où j'ai travaillé chez Ariane Group. Et ensuite, des rencontres personnelles et professionnelles ont fait que je me suis retrouvé entouré de personnes qui voulaient monter une boîte.
Et quand vous arrivez chez Ariane Group, c'est un désir d'aller vers le spatial, ou c'est une opportunité de travail qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve chez Ariane Group et qu'on se prend de passion pour ce secteur d'activité ?
Non, c'est un vrai désir que j'avais. J'aurais pu tout à fait rester dans l'aéronautique, mais j'ai choisi vraiment de bifurquer dans le spatial.
Alors, vous avez rencontré un certain nombre de personnes pour créer Hyperspace, un lanceur d'alerte qui revient, je disais un peu comme les pigeons voyageurs, on l'envoie et il revient à la maison, c'est ça ?
Voilà, le but maintenant, c'est, je pense que dans le spatial, on peut plus faire de lanceur qui ne revient pas. On est obligé d'avoir une vision un peu plus éco-responsable, donc ça devient compliqué maintenant de faire juste du jetable à l'usage unique. Donc on a l'avantage de développer un système de propulsion qui le permet. On peut éteindre le moteur, le rallumer, moduler la poussée. Donc ça permet d'aller dans l'espace, mais ça permet aussi d'en revenir. Donc on compte tirer pleinement profit de cette capacité opérationnelle pour permettre d'envoyer le moins de débris possible dans l'espace. Mmh.
Comment est née l'idée d'Hyperspace ? À quel moment, comment s'est constitué le constat pour en arriver à la période, j'ai envie de dire, d'ingénierie et puis maintenant peut-être de production ?
Alors en fait, c'est vraiment parti au début d'une innovation technologique. Je suis rentré en contact avec un de mes deux cofondateurs, Alexandre Mangeau, qui avait fait sa thèse de doctorat en propulsion hybride. Mmh. Donc, et En fait, c'est en partant de ce doctorat-là qu'il a eu une idée pour faire une nouvelle architecture en propulsion hybride qui permettrait d'avoir un moteur, un système de propulsion spatiale efficace et beaucoup moins cher que ce qui existe, tout en étant plus vert. Donc, en fait, on est parti de cette innovation technologique-là. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah, maintenant qu'on veut construire un moteur de fusée, comment on va le vendre ? Comment est-ce qu'on va être une entreprise rentable ? Et donc, le marché le plus évident était bien entendu celui des micro-lanceurs.
Les micro-lanceurs. Alors, micro-lanceurs par rapport aux lanceurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous embarquez des satellites qui sont moins gros ou vous êtes sur un micro-marché ?
Alors, non. Alors,
un marché niche, je ne vais pas dire micro-marché, mais un marché niche.
Ouais. Alors, le micro, justement, par le fait que ça soit un petit lanceur qui soit fait pour embarquer des micro-satellites. Enfin, ça vient de là, à la base. Donc, c'est-à-dire des satellites inférieurs, dans notre cas, c'est inférieur à 250 kilos. Donc, sachant que les satellites habituels de télécommunication, ça se chiffre en plusieurs tonnes. Donc, c'est là qu'on voit que c'est de là que vient cette différence-là. Après, le marché des micro-satellites en eux-mêmes, c'était vraiment un marché de niche il y a 10 ans, c'était quasiment inexistant. Maintenant, c'est le marché qui explose de plus en plus.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes obligé pour lancer vos hyperspace, vous êtes obligé d'aller en Guyane, par exemple, d'avoir des espaces de lancement où on peut lancer depuis la France aujourd'hui ?
Alors, c'est
une vraie question,
précision.
Je n'ai pas de...
Ouais, tout à fait. Petite précision, notre lanceur s'appelle Orbital Baguette One, le lanceur en lui-même. Voilà.
Pour Orbital Baguette One, c'est intéressant.
Exactement. Voilà, c'est pour rester bien français. Alors, pour lancer, il y a de plus en plus de pays qui se dotent d'un pas de tir pour pouvoir avoir un accès à l'espace. Mais bien entendu, nous, notre choix numéro un, c'est Kourou, puisque bon, c'est un pas de tir quand même historique, exceptionnel, et c'est de là qu'on peut lancer sur le plus d'orbites. Donc nous, c'est vraiment le pas de tir qu'on vise en priorité. Mais après, en France métropolitaine, c'est assez compliqué, puisqu'il faut lancer vers l'Est pour profiter de la rotation de la Terre. Cependant, vers l'Est, on a des voisins qui aimeraient pas se prendre une fusée en cas d'échec. Donc c'est pour ça que Kourou, c'est pratique, on peut tirer vers l'océan.
Il y en a qui aiment pas non plus, les ballons, on en a parlé.
Les ballons non plus, ouais.
Donc Orbital Baguette One, ça fait Obi-Wan, il y a un rapport avec Star Wars dans tout ça ou pas?
Tout à fait, c'est totalement voulu.
C'est totalement, totalement voulu. Et donc la prochaine s'appellera R2D2, non?
Même pas. On n'a pas prévu la prochaine.
Justement, on en est où dans la R&D? Une fois Orbital Baguette One sera lancé, il faut penser la suite. On est déjà dans la deuxième réflexion, la deuxième génération de lanceurs.
Oui, tout à fait. Alors, on a deux générations de lanceurs prévues pour Obi-Wan, puisqu'il y en aura une où ça sera 8 fois le même moteur, donc 7 moteurs au premier étage et un seul moteur au second étage. Ça permet d'aller rapidement sur le marché. On développe un seul type de moteur à la tuyère près et on a quelque chose d'opérationnel. Mais après, pour optimiser la performance et les coûts, on aura un gros moteur au premier étage et un plus petit au second étage. Donc voilà, ça sera deux générations de Baguette One.
Alors, vous parliez tout à l'heure de carburant hybride. Qu'est-ce qu'on entend par un carburant hybride aujourd'hui ? Ça veut dire qu'on met de l'éthanol dans les lanceurs ? Excusez-moi, je simplifie pour
non,
vous faire...
Bien sûr.
Vous faire accoucher, on appelle ça la maïotique, je vous faire accoucher de ce qu'est réellement les carburants hybrides tels que vous les concevez, Sylvain Bataillard.
Alors hybride, ce n'est pas de l'éthanol et ce n'est pas non plus de l'électrique. En fait, en propulsion spatiale, actuellement, il y a deux technologies qui sont largement utilisées, la propulsion liquide et la propulsion solide. Propulsion solide, on vient mélanger le comburant et le carburant qui vont réagir ensemble dans la même phase. Donc en fait, c'est de la poudre, tout simplement. À l'opposé, on a la propulsion liquide, où les comburants et carburants sont stockés séparément dans des réservoirs. Et ils sont ensuite pompés dans une chambre de combustion où ils réagissent, et voilà, et ça crée la poussée. Nous, on est hybride à mi-chemin entre le solide et le liquide. Donc, c'est-à-dire qu'on a le comburant qui est stocké à l'état liquide et qui est injecté dans une chambre de combustion qui contient le carburant à l'état solide. Ça permet d'avoir les avantages de la propulsion liquide et de la propulsion solide grâce à notre innovation.
Et alors, en quoi est-ce que c'est plus durable ? En quoi est-ce que ça vient modifier peut-être la pollution que d'autres lanceurs n'ont pas ?
Alors, l'impact vient du fait que notre carburant solide, c'est un polymère, donc c'est du polyéthylène, qui est issu de la filière du recyclage. Donc, on utilise quand même du carburant, donc c'est quand même une fusée qui va cracher une partie de CO2, ça, c'est inévitable. Cependant, c'est du carbone qui est issu de la filière du recyclage, donc qui n'est pas issu de ressources fossiles, sachant que ce polymère-là, il peut être recyclé, voire biosourcé, donc c'est-à-dire qu'on recycle des déchets verts pour en faire du carburant pour fusée, dans notre cas.
Est-ce qu'on peut dire que j'ai posé la question à François Alter tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire que si, alors je passe du tout au tout, mais qu'Elon Musk avec SpaceX ouvre les chakras d'une jeune génération comme la vôtre pour aller sur le terrain du spatial, là où peut-être il y a quelques années, vous ne seriez pas allé naturellement, ou aussi facilement peut-être?
Je pense tout à fait que la vague du New Space, comme on appelle ça, a vraiment été entamée par Elon Musk, qui a vraiment lancé une nouvelle façon de faire. Donc c'est la privatisation de l'accès à l'espace, et vraiment une nouvelle façon de voir les choses, la réutilisation. Avant 2010, on n'en parlait
pas. Absolument pas.
Maintenant c'est devenu l'évidence. Donc il y a eu vraiment un
François est pas tout à fait d'accord. Pourquoi, François?
Oui, simplement le shuttle était déjà réutilisable. Coûtait très cher la maintenance. C'était pas forcément la meilleure. Enfin, d'un point de vue industriel, c'était pas forcément la meilleure façon, mais c'était déjà existant.
Il y avait déjà une idée, en tout cas, d'un aller-retour de la navette.
Simplement la démonstration d'une réutilisation, je dirais. À des coûts maîtrisés, là, effectivement, c'est nouveau.
C'est nouveau. Et sans lui, vous pensez qu'il n'y aurait pas eu cette porte ouverte? Vous n'y seriez peut-être pas allé, Sylvain?
Alors, c'est possible, oui, je pense. Parce qu'en fait, le fait que cette porte ouverte est due au fait que vraiment, je pense qu'Elon Musk est arrivé à mettre un coup de pied dans la fourmilière du spatial. Et donc ça a ouvert vraiment la privatisation de l'accès à l'espace. Beaucoup de start-up se sont développées partout dans le monde. Donc c'est vraiment une explosion de l'industrie spatiale, une prolifération, dans le bon terme, qui n'avait pas lieu jusqu'alors. C'était plus vraiment des acteurs étatiques et historiques qui se gardaient cette activité.
Alors quand est-ce qu'on voit les premières baguettes dans l'espace?
Alors, pour l'instant, on a déjà des essais au sol de notre démonstrateur en cours et qui ont déjà commencé l'année dernière. Le prototype à l'échelle 1 sera testé courant 2023. Le premier vol suborbital fin 2024. Ensuite l'orbital fin 2025.
Fin 2025 et pas de soucis sur les marchés, ils sont là. Et à partir du moment où vous serez sur le marché vous-même, ça va se commercialiser comme des petits pains?
Alors, très bonne question. Il s'avère qu'il y a énormément de projets de micro-lanceurs, mais on est un des très très rares en hybride. Et parmi les hybrides, on est le seul à avoir cette architecture qui permet d'être moins cher. Donc nous, on pense arriver sur le marché et être moins cher que les concurrents. Donc forcément, c'est plus facile pour avoir une part de marché.
Merci beaucoup Sylvain Bataillard d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde sur RCF. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on peut se retrouver en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes dédiées. À très bientôt, au revoir.